Confiné chronique, jour 2. Comment se passe le quotidien d'un centre de santé depuis le déclenchement de l'épidémie de coronavirus en France ? Adrien Meyer est assistant médical au cabinet médical de Meyras. Il est infirmier de formation et assiste entre autres les médecins dans les préconsultations des patients qui ont des doutes quant à leur état de santé. Il nous raconte ce qui a changé ces dernières semaines dans le fonctionnement du cabinet et nous offre quelques conseils sur la conduite à tenir.
Donc on a anticipé un peu sur l'épidémie, on a mis plusieurs règles en place il y a déjà 3 semaines. On a commencé en douceur, on a par exemple enlevé les magazines de la salle d'attente qui sont un vecteur de pathologie notoire. On a enlevé les jeux pour enfants. Ensuite, concrètement, il y a une semaine, on a mis en place des mesures un peu plus drastiques. On a mis des affiches de prévention, on a mis des masques, de la solution hydroalcoolique à disposition en salle d'attente pour les gens potentiellement à risque. Donc ils présentaient une toux, une fièvre, voilà, un tableau symptomatologique un peu à risque. Ensuite, progressivement, on a mis en place des créneaux spécifiques, donc en fin de journée, pour éviter de mélanger les gens qui avaient de la fièvre, pour éviter de contaminer les autres personnes. On a motivé en fait la téléconsultation pour éviter que les gens viennent au cabinet. Ça peut être via différents moyens, donc par téléphone, ou sinon quand vraiment des cas cliniques nécessitent une observation visuelle, par téléconsultation vidéo. Donc pour ça, on utilise un logiciel régional, une sorte de Skype hein, grossièrement. C'est une consultation vidéo, mais sur un canal sécurisé. Voilà, c'est vrai que le risque actuellement, c'est que les gens viennent chez le médecin généraliste parce que c'est le premier réflexe, et les urgences. Donc on a établi des critères qui séparent les gens en 3 groupes, suivant leur gravité, leur facteur de risque, qui nous permettent en fait de choisir et d'orienter un peu le type de consultation et la prise en charge adéquate. Donc par exemple, on va avoir le premier groupe, des gens qui ne sont pas à risque en soi, donc des gens, on va dire, une tranche d'âge normale, qui présentent soit de la toux, et ou de la fièvre et ou une conjonctivite, par exemple, donc des signes un peu précurseurs liés au coronavirus. Pour ces gens-là, on va faire une consultation à distance, donc par téléphone, ou à vidéo si vraiment il y a un petit doute, on a besoin d'apprécier, par exemple, voilà, une détresse respiratoire, des choses qui peuvent se voir visuellement. Et ça va être voilà, principalement de la surveillance, on va les rappeler 7 jours après, parce qu'à savoir que dans cette pathologie-là, il y a un risque élevé au bout du 7e jour.
C'est-à-dire un risque élevé ?
En fait, il y a une réponse immunologique liée au coronavirus qui se manifeste 7 jours après l'apparition des premiers symptômes. Donc on part du principe que même dans les cas basiques, on va quand même effectuer une réévaluation de notre propre initiative au bout de 7 jours. Sachant qu'on donne toujours la consigne aux gens de nous appeler entre-temps s'il y a une aggravation de leurs symptômes. Sachant que voilà, une pathologie évolue à J0, donc le premier jour, ils peuvent avoir juste un peu de fièvre, et 2 jours après, avoir une difficulté à respirer, et dans ce cas-là, c'est une autre prise en charge qui s'enclenche. Donc voilà pour ce premier groupe, ce qu'on appelle les cas simples, en fait. Voilà.
Et eux, du coup, vous leur conseillez globalement de rester à la maison ?
On demande un confinement de 14 jours, avec un confinement strict, dans la chambre. Idéalement, il faut rester dans une même pièce, sortir juste pour aller aux toilettes, il faut que les repas soient servis par un tiers, idéalement, bien sûr. Donc concrètement, il y a une mise en place qui est un peu compliquée. Mais voilà, on préconise ce genre de pratique avec un lavage de mains régulier, tousser dans son coude, laver son linge à plus de 60 degrés pour détruire le virus. Et en plus de ça, on envoie un mail d'information à chaque patient qui trace en fait toutes ses conduites à tenir pour pas qu'il oublie, sachant qu'à chaque fois, on leur dit si vous avez des doutes, quoi que ce soit, on reste quand même à leur écoute pour les conseiller et les rassurer également, parce que c'est une situation qui est angoissante, parce que tout le monde dans l'hiver a une période de toux, a un peu de fièvre. Et c'est vrai qu'on est dans une période où, bon ben voilà, il y a des grippes, il y a le rhume, il y a les angines qui provoquent ces symptômes-là. Les gens sont rapidement étiquetés, entre guillemets, coronavirus par principe de précaution. Après, le cas 2, ce qu'on appelle le cas intermédiaire, donc ça, c'est des gens qui sont des patients à risque, donc qui ont des facteurs aggravants.
Donc, lesquels, par exemple ?
De l'hypertension, diabète, des problèmes cardiaques. Donc, c'est des gens qui ont ces facteurs de risque et qui présentent déjà des symptômes. Donc voilà, toux et ou fièvre et ou conjonctivite, mais qui n'ont pas de signes alarmants.
Par exemple, vraiment une détresse respiratoire ?
Voilà, par exemple. J'ai mal au poumon, j'ai du mal à respirer, chez quelqu'un qui a plus de 70 ans, qui a des antécédents, par exemple, de BPCO, donc une bronchopneumopathie chronique obstructive, donc qui a déjà une faiblesse respiratoire, là, ça va nécessiter une prise en charge différente. Ou il peut être jeune aussi et avoir des problèmes de santé, hein, l'un n'empêche pas l'autre. Donc dans ces cas-là, on a mis en place du coup ces fameux créneaux d'urgence en fin de journée, qui sont réservés aux cas, entre guillemets, à risque, où ils vont être vus par un médecin. Et après, le troisième groupe, il a déjà ses signes aggravants. Donc là, dans ce cas-là, le médecin fait une régulation avec le 15 et est orienté vers l'hôpital parce que ça nécessite une prise en charge un peu plus poussée et une surveillance un peu plus accrue.
Le but, c'est de désengorger un peu les hôpitaux aussi ou...
Eh bien, on a indirectement un rôle de désengorger les hôpitaux sur plan où on évite que les gens qui sont dans un cas 1 ou 2, qui ne nécessitent pas forcément d'aller à l'hôpital, sont pris en charge par la médecine de ville. Pour que les gens qui viennent de notre cabinet, qui sont orientés vers les urgences, soit des cas justifiés, en fait, qui nécessitent vraiment une prise en charge hospitalière. Mmh. Sachant qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se gérer en ville, parce que bah, actuellement, le traitement reste symptomatique, une surveillance suffit, mais on va prendre en charge les aggravations de la pathologie. Notre rôle est aussi de prendre le relais aussi du 15, sachant que le 15 est submergé d'appels. Les chiffres qu'on a, bah, à peu près, c'est que le 15, de manière générale, répond à 95% des appels. Donc très efficace, c'est vraiment la première ligne de front face à une demande sanitaire des gens. Actuellement, ils ont beaucoup de mal à gérer les appels parce que les gens, par réflexe, culturellement, ils vont appeler le 15.
Est-ce que vous avez constaté une hausse des appels, des visites ?
Alors des appels, les gens sont quand même assez responsables. Je tiens à souligner qu'il y a des gens, quand même, par exemple, qui vont appeler pour annuler des rendez-vous de routine, de renouvellement d'ordonnance... Parce que voilà, par acquis de conscience, ils anticipent un peu l'afflux qui arrive. Donc ça, c'est à souligner. Après, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont informés, mais on entend un peu de tout et n'importe quoi. Donc il y a beaucoup d'appels d'informations qui sont quand même bien présents. Donc un afflux, oui, d'un côté. Et de l'autre, une certaine responsabilité de patients voilà, qui vont prendre un peu les devants pour nous faire de la place. Parce que bon, effectivement, il y a plus de gens qui appellent que la normale, en règle générale. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qui est itinérant à la situation et c'est compréhensif.
Est-ce que vous, en tant qu'infirmier, vous êtes inquiet, personnellement ?
Préoccupé, oui, parce que c'est une situation quand même exceptionnelle. Ça fait des décennies qu'on n'a pas eu affaire à une épidémie de cette envergure. Après, bon, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a quand même... une interaction entre les acteurs de santé, les structures sanitaires qui font qu'on a quand même un filet de sécurité, des conduites à tenir qui sont établies, qui sont viables. Après, personnellement, je ne suis pas non plus grossièrement dans la psychose, mais c'est quand même une situation qui demande à être préoccupée, qui demande quand même à suivre les directives qu'on nous donne, parce qu'effectivement, il y a un risque, hein, on l'a vu en Chine, on le voit en Italie. Quand les gestes barrières, le confinement laissent à désirer, c'est la base d'une épidémie. Hein. Ce qui va vraiment jouer le jeu du virus, c'est le nombre d'hôtes disponibles, le nombre de contacts que les gens vont avoir entre eux. Ça, pour le virus, c'est bizarre. Donc effectivement, il faut quand même être respectueux et sérieux par rapport aux consignes de confinement, aux consignes de gestes barrières. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Si tout le monde joue le jeu, on limitera complètement les dégâts.
J'ai vu il y a quelques jours au supermarché des gens qui portent des masques. Est-ce que ce masque, il est utile, pas utile, pour qui, dans quelles circonstances ?
Les gens qu'on voit communément ont un masque qu'on appelle le masque chirurgical. C'est un masque utilisé, donc, comme son nom l'indique, en chirurgie, pour éviter que les projections de la personne aillent vers l'extérieur. C'est vrai, quand on croise quelqu'un avec un masque, ça veut tout et rien dire. Ça peut très bien être quelqu'un qui est malade, qui cherche à protéger les autres, donc en soi, la raison est noble. Imaginons quelqu'un qui est tout seul chez lui, qui doit aller faire des courses. Bon, bah, il n'a pas trop de choix, il met son masque, il y va. Après, effectivement, les masques, les nombres sont limités. Les directives nationales, c'est de prioriser les soignants parce qu'effectivement, il y a des contacts à risque. Donc, quand on est à risque, mettre un masque, ça s'entend. Si on n'a pas de masque et qu'on craint un peu, il faut respecter au moins une distance de 2 mètres. Ce qui est une protection basique, en fait, dans la contamination, ce qu'on appelle par gouttelette, donc par voie aérienne, donc des projections de salive, qui est suffisante. Voilà. Sachant que ce germe, donc ce virus, peut se transmettre soit par gouttelette et indirectement aussi par les mains. Donc porter un masque, c'est bien, mais il faut aussi penser à se laver les mains. Se laver les mains, c'est bien, mais toucher son smartphone toute la journée, qui est, dit-on, plus sale qu'une cuvette de toilette, c'est encore quelque chose à prendre en compte.
Donc il faut laver son smartphone aussi, le désinfecter.
Idéalement, voilà, désinfecter son smartphone, éviter de peut-être le donner à quelqu'un en plus de ça, parce que ça reste quand même un vecteur de contamination conséquent.
Combien de temps ça dure sur un support, le virus? Est-ce qu'on sait ça? Combien de temps il reste actif?
Officiellement, les chiffres qu'on a, sur une surface inerte, donc sèche, donc un téléphone, un verre, une poignée de porte, les touches sur le clavier de la carte bancaire, c'est 3 heures. Par contre, une surface humide, ce qui provoque en fait un nid à virus, parce que ça l'alimente, ça peut aller jusqu'à 6 jours.
Respecter les règles du confinement, faire bien attention à son hygiène et n'appeler le SAMU qu'en cas d'urgence, voilà quelques principes qu'il est bon de rappeler et auxquels il va falloir se tenir encore au moins 2 semaines.